Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias, toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui par exemple, une visite au musée avec l'artiste vivant le plus cher au monde, Jeff Koons. Et dans un tout autre genre, on va se déboucher les oreilles avec les 30 ans de... Et oui, vous avez évidemment reconnu Metallica. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe1.fr. Notre infomédia se pose cette question qui terrifie les patrons de chaîne sur les télécommandes des futurs téléconnectés. Les boutons 1, 2, 3, 4, etc. vont-ils totalement disparaître au profit des boutons Netflix ou Disney+. Les avis sont partagés et le débat fait rage car tout se joue maintenant en 2020-2021. Et puis nos invités, le grand reporter Tristan Walex qui vient de prendre les rênes de Complément d'enquête, émission emblématique, iconique de France 2. Ce soir en l'occurrence, un portrait d'Anne Hidalgo. Est-ce qu'elle viendra ensuite dans les fameux fauteuils rouges? Il nous dira. Enfin, Pierre Arditi pour Fallait pas le dire, une pièce de Salomé Lelouch, sa belle-fille avec sur scène Evelyn Bouix, sa compagne. Il est question d'interdits et même parfois de secrets de famille, ça promet. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Vincent Bolloré va lancer une OPA sur le groupe Lagardère, une condamnation pour France Télévisions, et puis plus joyeux, des confidences d'humoristes, le remake d'un célèbre film annoncé et un podcast adapté en livre. On finira aussi avec le rire d'Omar Sy.
Mais d'abord les audiences, qu'ont regardé les Français hier soir?
Ils ont regardé la suite de la série Les Invisibles, 4 100 000 téléspectateurs devant France 2, Les Invisibles qui confirment donc son succès, hein, 18,1% de part d'audience devant le premier épisode. Deuxième, TF1 avec sa série Good Doctor, la suite de la saison 4. Premier épisode a attiré 3 500 000 téléspectateurs, dont sa bonne moyenne, 15,4% de part d'audience. Et puis troisième, M6, Cauchemar en cuisine, dont je vous parlais hier, 2 240 000 téléspectateurs, 10,6% de part d'audience, légèrement plus de téléspectateurs que la semaine dernière.
Culture Média.
À la une du journal, le groupe Vivendi va lancer une OPA sur le groupe Lagardère.
Vincent Bolloré aurait ainsi le contrôle total du groupe Lagardère auquel appartient Europe 1. Vivendi vient d'annoncer le rachat des parts détenues par le fonds Amber Capital. C'est près de 18% dans le groupe Lagardère. Comme Vivendi détient un peu plus de 27% du capital, il devra alors lancer une OPA sur la totalité des titres restants. Et Vivendi se donne jusqu'au 15 décembre 2022 pour réaliser l'opération. Opération qui doit d'abord être validée par la Commission européenne et le CSA à cause des risques de concentration dans les médias et puis dans le secteur de l'édition, car Lagardère et Vivendi possèdent les deux premières maisons d'édition françaises, Hachette Livre et Editis. En 2003, une tentative de fusion avait d'ailleurs échoué.
OPA, je le rappelle, offre publique d'achat. France Télévisions condamnée pour atteinte au droit à l'image.
Pour avoir diffusé les images d'un chasseur landais en slip dans son champ, armé d'une pelle, vous vous souvenez peut-être?
Bien sûr, le fameux homme en slip.
Exactement, il avait été surnommé comme ça et c'est pour ça qu'il avait porté plainte. Cette image avait fait le tour des réseaux sociaux, elle avait engendré beaucoup, beaucoup de détournements. En fait, elle est extraite d'un reportage de 2015 qui suivait des militants de la Ligue de protection des oiseaux, militants venus détruire des pièges dans un champ. Cette action avait mené à une altercation de plusieurs minutes entre le propriétaire du lieu, avec sa pelle donc, les militants et les journalistes. France Télévisions avait diffusé ces images, très vite parodiées. Et c'est là que l'homme en slip et à la pelle, surnommé ainsi, avait porté plainte. Il dénonce une dégradation de son image, une atteinte à sa réputation. Verdict, 10 000 euros de dommages et intérêts et obligation pour France Télévisions de flouter ces images.
Je me souviens d'un micro-trottoir ou d'une interview à la télévision sur une chaîne d'info. Il y avait un type qui parlait, il y avait le bandeau, il avait écrit « Fils de l'homme en slip ». Plus joyeux, plus léger, 9 humoristes se confient ce soir sur Comédie Plus.
Dans un documentaire, les 9 les voici. Alban Ivanov, Alex Vizorek, Arnaud de sa mère, Bérangère Krief, Jean-Philippe Janssen, Jérémy Ferrari, Laura Laune, Monsieur Fraisse, Tanguy Pastureau. Voilà, le compte y est. Très beau casting.
Ah, vraiment,
ouais, tous racontent leur premier gala télévisé, ses premiers pas filmés, réussis ou non, hein, qu'on revoit en images. Alors pourquoi s'intéresser en particulier au premier gala télévisé? En fait, ce sont des moments très importants pour les jeunes artistes. Christian Mélan est à l'origine de ce documentaire.
C'est une façon d'exister auprès de ses pairs et surtout d'avoir une visibilité beaucoup plus importante. Donc pour eux, c'est un moment hyper privilégiés, donc ils sont stressés, ils s'interrogent, est-ce qu'ils vont réussir? Et je me suis dit, voilà, il y a plein d'images d'artistes qui ont démarré, que ce soit au Festival des Montreux, Festival Juste pour Rire, ou des soirées de gala, et c'était des moments, voilà, hyper émouvants. Et je me suis dit, ça serait chouette de les avoir derrière une caméra et qu'ils puissent s'exprimer et revenir justement sur ce moment assez magique pour eux.
Christophe Mellan n'est pas journaliste, pas réalisateur. En fait, il est producteur de spectacles, de gala télé justement. Et il a travaillé avec tous les artistes du documentaire. Il les a vus débuter pour certains. C'est une proximité qui fait toute la qualité de ce documentaire parce que les artistes se sont facilement confiés.
Toutes les interviews ont été d'une facilité franchement déconcertante parce qu'ils sont livrés comme si on était autour d'une table chez moi. C'est ce que je voulais vraiment donner comme impression, c'est-à-dire tout en confidence, mais que ce soit pas non plus excluant pour le téléspectateur. Je voulais vraiment que les gens qui s'intéressent à ce milieu ou tout simplement à des hommes et des femmes puissent apprendre des choses et voir que, bah, que c'était aussi pas seulement des gens qui étaient là pour amuser la galerie, mais des gens d'une sensibilité extrême.
Premier pas, mon premier gala télé, documentaire diffusé ce soir sur Comédie Plus à 20h55 ou disponible sur MyCanal.
Un célèbre film va avoir droit à un remake.
If I should stay.
Vous visualisez la scène,
mais
Whitney
oui.
Houston dans les bras de Kevin Costner, son garde du corps sur le tarmac de l'aéroport.
C'est le film Bodyguard.
Exactement, énorme succès commercial, plus de 400 millions de dollars au box-office mondial. Et ses chansons sont devenues la bande originale de film la plus vendue de tous les temps.
Dingue.
Et les studios américains, ils veulent faire un nouveau film, un remake inspiré de celui de 1992. C'est le site américain Variety qui révèle l'information. Alors ils n'ont pas précisé le duo d'acteurs qui pourra incarner le garde du corps et la comédienne chanteuse.
En tout cas, on en connaît déjà la bande-annonce. Quoi qu'on ne sait pas, plutôt la bande-son.
La bande-son, peut-être.
L'actu des médias, c'est également chez nous à Europe 1. Le podcast Associé numéro 1 devient un livre.
Ouais, c'est une première pour Europe 1 Studio. Associé numéro 1 raconte la naissance du Paris Saint-Germain, un mythique club de foot qui vient de fêter ses 50 ans. Mais d'ailleurs, pourquoi s'appelle-t-il le PSG? Qui en est à l'origine? Et savez-vous qu'Europe 1 a un rôle dans l'histoire du club? Et oui, soit vous écoutez le podcast, soit vous lisez justement ce livre maintenant. Les réponses sont aussi dedans. Podcast de Julien Froment, et c'est aux éditions Amphora, ce livre, ça sort aujourd'hui.
Et puis on termine avec Omar Sy, vous nous l'aviez promis, présent Omar Sy dans un prestigieux classement international.
Celui du Time, un célèbre magazine américain qui établit chaque année le classement des 100 personnalités les plus influentes dans le monde. Cette année, Harry et Meghan ont les honneurs de la une. Et parmi les artistes, Omar Sy, il figure aux côtés de Scarlett Johansson, Kate Winslet, entre autres, excusez du peu. Et comme chacune des 100 personnalités, Omar Sy a le droit à un texte qui accompagne sa photo. Texte écrit par Bradley Cooper, qui a pris la plume, rien que pour lui. Ils ont joué ensemble, en fait, dans le film À Vif. Alors, Bradley Cooper écrit notamment « Omar a tous les talents, il peut tout faire, produire, mettre en scène, etc. Et il le fera de tout son cœur, ouvert et généreux. S'il n'y a pas d'issue, c'est grâce à sa gentillesse qu'il s'en sortira et il vous embarquera avec lui. Gentillesse solide, pleine de confiance et facile, c'est tout ce dont on a besoin en ce moment. »
Pas mal.
Pas mal, hein. Il souligne aussi son rire irrésistible, contagieux, dit-il. D'ailleurs, on va finir ce journal dessus.
C'est un arbre. Un arbre qui chante. C'est de l'allemand. Quoi, je suis?
C'est en allemand.
Extrait du film Intouchable. Je vous laisse là-dessus, ça laisse le sourire pour la journée.
Et oui, on en parle dans la culture, c'est la fameuse scène où il découvre l'opéra.
Exactement.
En arrivant d'une banlieue qu'on dit défavorisée. Merci beaucoup Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, on va parler des télécommandes de télévision. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, elles proposent des boutons pour accéder à Netflix ou à Prime Video ou à Disney+, normal. Sauf que peu à peu, les boutons 1, 2, 3, 4, etc. sont en train de disparaître et les patrons de chaîne commencent à paniquer. On en parle avec Olivier Kouvarakis de l'application Molotov. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'était un titre de Figaro il y a quelques jours, titre inquiétant pour certains, comment les chaînes françaises perdent la bataille cruciale de la télécommande. Enquête dans laquelle même la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, s'inquiète et pour cause, la quasi-totalité des télécommandes des 3,6 millions de télé intelligentes vendues en 2020, ce qu'on appelle les Smart TV, n'ont plus de boutons pour accéder aux chaînes de télé. On ne peut plus taper 1, 2, 3 ou 4, mais il y a en revanche des boutons pour accéder aux plateformes de streaming, Amazon Prime, Netflix ou Disney+, pour ne citer que ces marques-là. Même les opérateurs s'y mettent, comme Free. Les Les télécommandes vont-elles disparaître? Plutôt, les touches des télécommandes vont faire-t-elles disparaître les chaînes de télé? Et à terme, la souveraineté culturelle audiovisuelle de la France va-t-elle se noyer là-dedans? Élément de réponse avec Olivier Kouvarakis. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes directeur marketing et partenariat de l'opération de l'application Molotov, j'y arrive. Vous supervisez notamment la distribution chez Molotov de Molotov chez les fabricants de télévision et sur les stores d'applications. Alors Molotov, en gros, on peut dire ce que c'est?
Oui, très rapidement. Donc Molotov a bientôt 5 ans maintenant. C'est une application qui a été fondée par Jean-David Blanc, qui est l'ancien fondateur d'Allociné, et Pierre Lescure, que je pense qu'on n'a plus besoin de présenter.
Combien d'utilisateurs?
Alors, on a 16 millions d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme aujourd'hui.
En France ou dans le monde?
Alors ça, c'est en France, mais effectivement, on est aussi présent dans le monde, dans 5 pays, sur différents continents. C'est une application de streaming de contenu, donc dans une même interface, on retrouve des programmes qui sont disponibles à la fois en direct, en replay et à la demande, de plus de 200 éditeurs et chaînes de télévision.
Et vous avez été récompensé 4 fois de la meilleure application de l'année sur Apple Store et sur Google Play Store. Alors donc, dorénavant, sur la majorité des Smart TV, les téléconnectés, il faut appuyer sur la touche menu, puis sélectionner l'accès aux chaînes pour ensuite trouver celle qu'on veut regarder. Or, c'est bien plus simple de regarder Netflix, il suffit d'appuyer sur la touche Netflix. Les chaînes françaises s'en inquiètent. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a déclaré dans le Figaro, je la cite, « Le grand danger qui menace les chaînes de télévision est de se trouver totalement désintermédiés par les téléviseurs connectés. À terme, c'est notre visibilité et donc l'existence même des médias locaux, c'est pas seulement la France mais tous les pays, qui est en jeu. » Fin de citation. Que répondez-vous à Delphine Ernotte?
Je pense qu'il y a plusieurs sujets, en fait, derrière ce sujet-là. En particulier, est-ce que les boutons de la télécommande vont disparaître? On les voit disparaître et c'est fort probable qu'ils disparaissent. La question, c'est vraiment, est-ce que c'est grave? Il y a à peu près 15 ans...
Oui, c'est grave. Si on ne peut pas mettre la une, on ne peut pas mettre la deux, mais qu'on peut mettre Netflix, pardonnez-moi. Mais si vous voulez voir la une, c'est grave.
Alors, je vais vous donner une analogie. Il y a 15 ans de ça, à peu près, tous les téléphones ont perdu leurs boutons au profit de pavés tactiles. Est-ce que vous téléphonez moins? Est-ce que vous envoyez moins d'SMS? En fait, c'est l'interface qui a changé. C'est pas l'absence ou la présence de boutons qui change l'usage, c'est le changement d'interface. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement les boutons vont disparaître, mais l'accès, très vraisemblablement et même avec une grande certitude, aux chaînes essentielles, lui, ne va pas disparaître. Par contre, il va se faire à travers différentes interfaces. Et c'est la mission même de Molotov, lorsqu'on l'a créé, que de se dire que le bouton qui est amené vers une chaîne linéaire n'était plus adapté à un service qui n'était plus que linéaire. Il y a d'autres contenus, il y a d'autres services. Derrière un seul bouton, aujourd'hui, on essaie de mettre du live, du replay, du start-over, de l'enregistrement, ça ne rentre pas. Donc pour faire ça, il faut repenser l'interface. C'est ce qu'on a fait chez Molotov. Et à partir de là, on n'a plus besoin des touches. On a besoin de naviguer et donc on a besoin de pavés tactiles.
Pardonnez-moi, ne dites pas que vous n'avez plus besoin des touches, puisque justement, Molotov, c'est la raison pour laquelle je souhaitais que vous soyez ici présent à ce micro et je vous remercie d'être venu.
Alors, Molotov, des touches
notamment sur les téléviseurs Panasonic, a une touche dédiée sur la télécommande. Alors, donc c'est bien que c'est intéressant.
Alors, on va préciser, là je parlais des touches digitales, puisque je pense que dans l'article auquel vous faites référence, on parle des touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et effectivement, on les oppose aux touches que j'appelle de raccourcis. Je vais continuer à filer mon analogie avec le smartphone. Les raccourcis, c'est vos icônes sur votre smartphone aujourd'hui. C'est mon bouton pour aller vers mon univers de service, quel qu'il soit, sur mon téléphone. Ces touches-là, c'est la même chose. Donc, la question, c'est est-ce que ces touches resteront, vont être mises à disposition aussi des chaînes essentielles. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Oui, je vous en citais une, c'est Molotov. Typiquement aujourd'hui, effectivement, on est sur Panasonic, on est aussi sur les téléviseurs Hisense, et on a signé pas plus tard qu'hier un autre grand constructeur. Donc c'est une exclusivité que je vous donne aujourd'hui, Philippe, qui va faire que d'ici la fin de l'année, tout début d'année prochaine, 20% des télés qui seront vendues, donc des smart télés qui seront vendues en France, auront un bouton Molotov pour accéder directement et gratuitement aux chaînes de la TNT en particulier.
La marque, c'est laquelle de téléviseurs?
Je ne peux pas vous le dire, c'est signé hier, vous le saurez très vite.
C'est un demi-scoop. Donc, alors, je précise que ce sujet a été très, très, très difficile à monter, puisque tous les gens qu'on a invités nous ont dit ou nous ont fait comprendre que le sujet était tellement sensible qu'ils préféraient ne pas parler. Donc, je vous remercie d'être ici en direct dans ce studio. Les constructeurs de télé, la majorité, ils sont en Asie. Je n'apprends rien à personne. Ils signent des partenariats financiers avec les plateformes. Comment se fait-il qu'on puisse avoir une touche Molotov ou Disney+ ou Netflix sur une télécommande? Il faut payer pour ça.
Alors, il faut s'entendre, effectivement, il faut s'entendre. Il peut y avoir des partages de revenus.
Ça veut dire quoi, il faut s'entendre? C'est le mot poli pour dire il faut payer ça?
Non, en fait, il y a différents acteurs qui ont différentes attentes et qui ont différents poids. Il ne faut pas voir les constructeurs de télé comme des gens qui veulent absolument monétiser leurs boutons. C'est en priorité des fabricants qui veulent développer l'usage sur leurs téléviseurs. Et donc, je ne les vois en aucun moment entraver l'accès aux chaînes de télé essentielles qui représentent aujourd'hui 80% de l'audience.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était la suivante. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des enchères? Comment on fait si on lance une plateforme, un service pour que LG, pour que Sony, pour que Panasonic mettent le petit bouton sur sa télécommande?
Alors, je vais vous répondre. Ça dépend. Avec certains, ils sont ravis et ils viennent nous voir pour avoir le service parce qu'ils souhaitent justement simplifier l'accès. Ils sentent qu'ils sont un peu à la traîne par rapport à la concurrence. Donc, ils veulent justement un service innovant. Ils veulent une nouvelle interface, moderniser l'accès à la télé. Donc, ils souhaitent vraiment faire ça. Ils ont compris que le hardware, c'était plus suffisant. Il fallait proposer un service. Donc, ils viennent nous voir. Ils nous
le hardware, ça veut dire le matériel en dur,
le hardware. Exactement. Il y en a d'autres, évidemment, qui ont un plus gros pouvoir de négociation, mais qui veulent aussi avoir accès aux chaînes essentielles et à une interface innovante comme celle de Molotov. Et à partir de là, on doit s'entendre, effectivement. Et ça dépend du niveau d'intégration. Donc, il peut y avoir un partage de revenus, évidemment, mais c'est le cas de tous les distributeurs. Dès que quelqu'un vend quelque chose, il va rémunérer le vendeur. Bah, en l'occurrence, là, le constructeur télé et le distributeur. Donc, c'est normal qu'il soit rémunéré. Donc, c'est ce qu'on fait. Et on a différents niveaux de rémunération en fonction du niveau d'intégration. On peut être juste visible dans l'interface, mais aussi présent sur un bouton. Et on peut même aller plus loin. Je pourrais vous donner quelques détails d'une intégration très, très profonde où on remplace même Molotov remplace l'interface de la télé complètement.
Comment ça se passe concrètement? Réponse avec Olivier Kouvarakis. Et on va également entendre des gens de Salto et des gens de France Télévisions qui ne sont pas venus sur ce plateau, mais qui nous ont quand même donné des sons. À tout de suite, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Olivier Kouvarakis, directeur marketing de l'application Molotov qu'on peut trouver sur les plateformes, où il y a un site dédié évidemment, mais aussi qu'on peut parfois trouver sur sa télécommande, et c'est le sujet du jour. Est-ce que les touches des télécommandes ne vont mettre en avant plus que des touches assez neutres, les touches de Molotov, Disney+, ou Netflix, et faire disparaître les boutons, les numéros? Pour mettre la 1, on tape le 1, et pour mettre la 8, on tape le 8. Est-ce que ça va disparaître? France Télévisions essaie depuis 2020 de proposer des alternatives, avec notamment une application qui a été déployée sur les Smart TV Samsung et LG. Mais c'est pas si simple que ça. Écoutez la directrice du numérique de France Télévisions, Encarna Marquez.
L'accès et la mise en avant des différentes applications, dans les magasins d'applications, que ce soit chez Samsung ou chez LG, sont soumis à des accords de distribution et marketing. Et bien évidemment, France Télévisions n'a pas les moyens marketing pour rémunérer Samsung et LG à la même hauteur que un géant comme Netflix peut financer.
Et là, on comprend bien le problème. France Télévisions n'a pas les moyens et ça vous fait sourire, Olivier Kouvarakis?
Alors, ça ne me fait pas sourire. Je comprends la problématique parce que je la vis quasiment quotidiennement dans mes relations avec les fabricants. Il y a des choses qui ont beaucoup bougé depuis quelques années. Déjà,
cette interview a été faite hier, hein, donc ça n'a pas beaucoup bougé depuis hier.
Depuis hier, non.
France Télévisions n'a toujours pas les moyens.
Non, c'est la situation avec les fabricants et l'interaction avec les fabricants qui a bougé. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il y a aujourd'hui des emplacements, que ce soit sur les télécommandes, donc en particulier les boutons, mais aussi sur les interfaces des
utilisateurs. L'interface, j'explique, c'est quand on arrive, c'est la page d'accueil.
Voilà, c'est le menu, si vous voulez.
Voilà, c'est le menu qui se déroule sur votre écran.
Exactement. Donc, il y a des espaces que vous retrouvez, où vous pourrez retrouver vos applications sur cette interface et sur les boutons de la télécommande. Et donc, effectivement, il y a des discussions, des négociations avec ces fabricants, mais ils ont eu la bonne idée depuis quelques temps, parce qu'ils ont vu qu'il y avait la nécessité et beaucoup d'usage local sur les chaînes locales, d'avoir une présence de boutons comme Molotov aujourd'hui pour accéder aux chaînes locales.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais là, est-ce qu'on marche pas sur la tête? Rien que cette phrase, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup d'usages locaux des chaînes locales. Ça paraît une évidence, ça paraît le béaba. Comment pourrait-elle disparaître?
Alors, c'est une évidence. Ce sont des constructeurs qui regardent de manière globale. Donc, c'est déjà plus difficile pour eux de s'adapter localement.
Non, mais pardonnez-moi, excusez-moi, je ne suis pas en train de faire le procès des distributeurs, des fabricants, ils ne sont pas là. Mais ils peuvent se douter qu'en Grèce, on a envie de voir les chaînes grecques, et qu'en Italie, on a envie de voir les chaînes italiennes.
Au moment où on se parlait, je pense qu'il y a quelques années, c'est pour ça que je vais finir mon raisonnement, mais il y a quelques années, la TNT ou le satellite faisait le job, si je peux le dire, pour accéder aux chaînes essentielles de la TNT en particulier. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un usage qui se fait sur l'IPTV et les télés n'étaient pas encore adaptées. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'effectivement, il y a des deals mondiaux pour des grands groupes comme Netflix et Disney+, mais il y a maintenant une part de visibilité sur les télécommandes, sur les télés, qui sont dédiés au local. Donc, il y a 2, 3, 4, 5 slots en placement qui sont discutables au sein d'un même pays. Et donc, aujourd'hui, en France, typiquement, sur une télé, prenons Samsung, il y a différents slots. Et donc, on va les attribuer en fonction de négociations, effectivement, mais entre des acteurs locaux. Donc, Molotov n'est pas face à Netflix quand il fait ces négociations-là. Il est face à des concurrents locaux pour avoir accès à ces chaînes-là avec ses propres moyens. Donc là, on n'est pas en face de moyens, on n'a pas besoin de moyens comme Netflix et Disney.
Alors quand même, ça veut dire que Molotov a quand même pas mal de moyens puisque Thomas Follin, le patron de Salto, la plateforme commune créée par TF1, M6 et France Télévisions, c'est assez notable de signaler.
Je pense qu'on en a moins que TF1 et M6.
Alors, je veux dire, pour lui-même, Thomas Follin, donc le patron de Salto, disait au Figaro, je le cite, une plateforme comme Salto n'aura jamais assez d'argent pour avoir sa place sur la télécommande ou s'afficher en pole position des écrans télé, donc sur l'interface que vous dites.
Bah, manifestement, c'est faux, puisque je pense que les finances de Molotov sont plus ou moins connues. Ça nous coûte des sommes qui sont totalement raisonnables. Pour certains constructeurs, ça ne coûte rien. C'est un service qu'on leur rend, n'oublions pas. Sur ces téléviseurs, sans Molotov, il n'y aurait pas d'accès via Internet aux chaînes de télé. Et aux chaînes de télé, et surtout à leurs fonctions avancées. Donc ces constructeurs-là sont heureux, pour une certaine partie d'entre eux, d'avoir accès à ce service gratuitement, parce qu'il n'est pas gratuit. Il y a une centaine de développeurs chez Molotov qui travaillent à le mettre en œuvre. Donc, encore une fois, c'est un service qu'on rend. Donc, ils ont bien conscience de ça. Ils ont bien conscience aussi que pour avoir de l'usage sur leurs écrans, il leur faut ces contenus. On parle de 80% de l'audience française. Donc, les plateformes sont puissantes, mais on le voit bien dans les résultats. Aujourd'hui, elles ne font pas plus de 20-30% d'audience. Donc, il y a besoin des chaînes essentielles aujourd'hui.
Qu'est-ce qui va se passer à terme, vous qui voyez plus loin? Vous parliez des slots, donc les emplacements sur la télécommande. Est-ce qu'il pourrait y avoir des slots, par exemple un slot Molotov, Disney+, Amazon, et puis par pays, des emplacements réservés, donc admettons en France.
C'est déjà le cas.
Admettons en France, une touche France Télévisions, une touche groupe TF1, une touche groupe M6, s'ils fusionnent, ça ne serait plus qu'une seule touche, une touche groupe Canal+, et une touche groupe RMC.
Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est est-ce qu'il peut y avoir des slots et des boutons réservés localement? C'est déjà le cas.
Ouais.
Prenons le cas de Hisense, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les télécommandes Hisense. Hisense, c'est le deuxième constructeur de télé chinois. C'est une immense entreprise de construction, pas que de télé, de produits blancs également. Donc, c'est un mastodonte du secteur. Donc typiquement, Hisense a décidé de réserver dans chacun des pays un certain nombre de boutons qui sont alloués localement. Et donc typiquement, il y a un bouton Molotov depuis juin sur ces télécommandes. Donc ça, c'est le premier sujet. La deuxième question est beaucoup plus compliquée. Et ça, j'allais dire, je renvoie les chaînes, les groupes de chaînes aux discussions avec les fabricants. Parce que là, ils vont devoir s'entendre sur une interface. Nous, c'est un travail qu'on a déjà fait chez Molotov, d'agréger toutes les chaînes de la TNT et les 200 chaînes, de les mettre dans une seule interface et de les mettre derrière un seul bouton. Donc pour le fabricant, c'est simple. Effectivement, si demain, tous les groupes demandent des boutons, refusionnent, enlèvent des boutons, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Donc je les renvoie, ça va être une discussion qu'ils vont devoir avoir. Encore une fois, c'est des groupes mondiaux, donc ils n'ont pas forcément l'agilité de changer ça tous les mois.
La nouvelle directive SMA, Service des médias audiovisuels, menée par l'Union européenne, prévoit que le CSA étudie la question de mise en avant des services audiovisuels d'intérêt général, donc les chaînes de télé, sur les interfaces de Smart TV notamment. On a demandé ce qu'espérait, ce que visait France Télévisions à sa directrice du numérique. On réécoute Encarna Marquez.
Comme l'ont fait d'autres secteurs et d'autres gouvernements, comme en Angleterre, il y a des décrets ou je ne sais pas quelle forme juridique pourra prendre la recommandation du CSA, mais en tout cas qui permettent, entre guillemets, aux chaînes nationales d'avoir la capacité d'être exposées de la même façon qu'ils sont les grandes plateformes.
Donc elle est un petit peu d'accord avec vous.
Oui.
Sur ce thème-là. Merci beaucoup Olivier Kouvarakis. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et partenariat de Molotov qui a signé hier un deal, on vient de l'apprendre, avec une marque qu'on ne sait pas encore, qui représente 20% des téléviseurs et vous êtes présent partout, y compris sur la touche des téléviseurs Panasonic.
Exactement, et 9 télés qui seront vendues sur 10 d'ici la fin de l'année auront Molotov mis en avant, que ce soit par un bouton ou par une présence dans l'interface.
Télé sur lesquelles on pourra voir Complément d'enquête, magazine emblématique de France 2. C'est ce soir un spécial Anne Hidalgo qui sera présenté. On sera justement avec la nouvelle incarnation de l'émission, Tristan Walex. À tout de suite dans Culture Média.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Tristan Walex.
Bonjour.
Journaliste, grand reporter pendant des années à Complément d'enquête, puis envoyé spécial sur France 2. Vous avez reçu le prix Albert Londres en 2016 pour votre enquête Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien. Enquête sur ses activités dans les ports en Afrique, mais également vous avez signé des enquêtes sur Big Malion ou encore. C'est vous qui avez sorti l'interview oubliée de Pénélope Fillon, c'est bien ça?
C'est ça, dernière présidentielle, c'était un grand moment de la campagne.
Pendant la campagne 2017, l'interview dans laquelle elle disait qu'elle ne participait à aucune activité autour de son mari. Vous avez été nommé Tristan Walex à la rentrée à la tête du magazine iconique, comme dit Laurent Guimier, Complément d'enquête. On vous connaissait comme reporter de terrain. Vous allez devoir rester au bureau. Pourquoi avoir accepté un poste sédentaire?
Alors, je vais être moins sur le terrain, forcément, mais le but, c'est de continuer à bouger un petit peu. Les fauteuils rouges vont être mobiles. Et ce que j'aime bien dans ce poste de présentateur, intervieweur de Complément d'enquête, c'est qu'il y a cette deuxième partie, intervieweur. Je vais continuer donc à faire ce que j'aime faire et ce que je savais faire de mieux, je pense, c'est-à-dire convaincre des gens qui ne parlent pas très souvent d'être interviewés, de parvenir parfois à leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de dire.
Mais vous n'allez plus faire de reportage de terrain. Vous n'allez pas lancer un sujet à vous ou c'est possible? Dan Razer le faisait. Qui présentait CBS Evening News, lançait parfois un reportage signé par lui.
Alors, j'ai quelques marottes, donc j'essaye un peu de dispatcher dans l'équipe. On a une très bonne équipe de reporters à Complément d'enquête. J'essaye d'insuffler un petit peu des idées. Alors, je vous cache pas que depuis quelques semaines, j'ai quelques frustrations parfois parce que j'aimerais faire les enquêtes jusqu'au bout, mais c'est un autre exercice, une autre manière de faire de l'enquête et de défendre l'investigation que d'essayer d'insuffler quelques idées.
On voit votre visage désormais. L'émission a démarré le 2 septembre. Ça a changé quelque chose au quotidien? On vous reconnaît dans la rue?
Non. Et alors, pour le coup, c'est vraiment pas pour ça que j'ai...
C'était pas ma question. Ma question, c'était est-ce que ça a changé quelque chose?
Non,
franchement, vous reconnaît à la boulangerie?
Franchement, pas grand-chose. Je continue à faire le journalisme que j'aimais faire, c'est-à-dire un journalisme factuel, d'enquête, l'investigation. Je défends ce en quoi je crois. Et donc, franchement, au quotidien, ça ne change pas grand-chose.
Le sujet de ce soir, c'est une longue enquête, en forme de biographie, mais pas seulement. Il y a plein de faits d'actu sur Anne Hidalgo. Pourquoi elle?
Alors, ça a été lancé il y a longtemps. Pour le coup, ça a été lancé avant même mon arrivée. C'est Julien Daguerre, qui est notre reporter, qui a eu du flair, qui s'est intéressé à elle, alors qu'elle disait encore à l'époque qu'elle ne serait jamais candidate à la présidentielle de 2022. Donc, c'est une enquête qu'il a menée pendant de longs mois. Il l'a démarré il y a 6 mois environ. Mmh. Et ça tombe finalement à pic, puisque la diffusion était prévue là, ce jeudi, depuis quelques temps, et qu'elle vient tout juste de se déclarer candidate, officiellement.
Comment avez-vous travaillé avec elle? Si j'ose dire, c'est autorisé, non autorisé? Est-ce qu'elle vous a ouvert les portes facilement?
Alors, à Complément d'enquête, on fait des reportages qui sont ni des hagiographies, ni des portraits à la Kalachnikov très à charge. Et donc, on propose toujours aux gens de nous ouvrir les portes. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et là, en l'occurrence, Anne Hidalgo a ouvert quelques portes, quelques proches également. Donc voilà, c'est un portrait qu'on va dire semi-autorisé, mais c'est pas parce que c'est semi-autorisé que c'est une hagiographie. On est allé aussi sur des pistes d'enquête et donc voilà, il y a certaines séquences qui ne font pas forcément plaisir à Madame la Maire.
Il y a des proches qui parlent, il y a aussi les opposants. Alors vous posez la question, avant de gérer la France, sait-elle gérer Paris? On va entendre un premier extrait, les questions de propreté. Grand sujet avec le hashtag Saccage Paris, avec des photos de poubelles qui débordent, des couloirs de vélo avec du béton, des bitonniers en plastique jaune, et encore je suis poli, et des feux rouges rafistolés avec du scotch. Là, on voit une séquence, le sujet démarre comme ça. Anne Hidalgo est en réunion avec son équipe et elle tient absolument à ce que sa ville soit belle.
Je suis passée, je passe souvent, vers Montparnasse donc c'est très beau ce qui a été fait boulevard Pasteur et très beau ce qui est fait devant la gare Montparnasse. Mais vous m'avez mis des petites barrières, pardon, à la con, en bois, partout.
Devant nos caméras, le message est limpide. Madame la maire est aux affaires.
Donc vous m'enlevez tout ça et vous enlevez tous les rouleaux parce que je me suis dit non, je rêve. Il y a des rouleaux grands comme ça en attente de déroulement. Oh non, pas ça. D'accord? Donc on enlève tout ça.
On enlève tout ça, dit-elle. Je veux dire, ce qui m'a frappé, le compte Twitter Saccage Paris, qui dénonce le saccage de Paris. Il y a 4000 abonnés, des centaines et des centaines de fois par jour relaient des images, des vidéos, les images qu'on fait le tour du monde jusqu'en Australie, jusqu'à New York. Et là, on lui en parle pas. Pour quelle raison ?
Alors, si, pour le coup, on lui en parle et c'est, ça fait partie
de... Ah bon, j'ai vu tout le sujet, non, il n'y a aucune question là-dessus.
Alors si, on suit même Claire-Amélie Pelos, qui est une des responsables du hashtag Saccage Paris.
Oui, on voit les gens de Saccage Paris, oui. Mais jamais la question n'est posée à Anne Hidalgo. Alors, là, on la laisse, pardonnez-moi, on la laisse dérouler sa com, vous me nettoyez tout ça.
Et pour le coup, c'est
si vous allez dans Paris, vous voyez que tout ça n'a pas été nettoyé.
Et on décrypte ça comme on explique justement qu'on n'est pas complètement dupe, que on sait très bien que quand on nous ouvre des portes, il y a une part de, on est quelque part instrumentalisé. Et clairement, quand on explique que c'est devant notre caméra qu'elle essaye de jouer la patronne, quelqu'un qui va justement s'occuper de la propreté, il y a de l'ironie, je pense que l'on sent bien dans le commentaire. Et on n'est pas complètement dupe. Elle veut montrer qu'elle s'occupe de ce sujet-là, et on sent bien que c'est un sujet effectivement sensible pour la communication de la mairie de Paris.
Là où on le voit, où elle s'énerve. Ou c'est quand elle lance sa campagne en pleine cambrousse, j'utilise à dessein ce mot, et que vous dites, mais quand même, vous avez fait exprès d'être ici dans ce décor bucolique plutôt qu'être à Paris, et là, elle se vexe.
Oui, c'est ça, c'est assez étonnant comme réponse. C'est-à-dire qu'elle est. On filme en fait une coulisse, la coulisse de la séance photo de la une de Paris Match, où elle est à Clermont-Ferrand, enfin près de Clermont-Ferrand, prise en photo au milieu d'un troupeau de vaches avec une robe verte. Et effectivement, on lui demande de bien regarder les veaux qui sont autour d'elle. Et quand on lui dit, est-ce que vous avez besoin de déparisianiser votre image? Elle explique que non, ça n'est absolument pas une opération de communication, alors qu'on sent bien que c'est la réalité.
Autre sujet récurrent, la circulation. Julien Daguerre, votre journaliste qui interviewe Anne Hidalgo à la mairie de Paris, a mis un temps fou pour arriver et il en fait une question.
Nous, par exemple, on a fait une expérience il y a quelques semaines. Pour faire 10 km, on a mis 2 heures en voiture dans Paris.
C'est une expérience unique. Hein. J'espère que vous avez marqué l'heure, le lieu, parce que c'est une expérience unique.
Il y en a certains qui...
Il m'arrive de faire 80 km en voiture par jour dans Paris, vous savez.
Il y en a certains qui disent que c'est régulier. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui sont obligés de prendre la voiture dans Paris? Vous leur dites qu'il va falloir faire 100?
Vous savez, je crois qu'il y aura toujours des gens pour vous expliquer qu'il ne faut pas faire, qui sont des conservateurs, appelons les choses comme ça, qui n'ont toujours pas compris que le changement climatique est déjà en train de produire ses effets. Vous savez, plus on diminue le trafic automobile, plus on diminue la pollution.
Au lieu de répondre à la question, elle parle de l'environnement, elle est dans son rôle, c'est normal. Ce qui m'a étonné, il n'y a pas de relance, pas de contradiction. Et pardon de vous dire ça, on a connu complément d'enquête plus accrocheur.
Alors pour le coup, on lui pose beaucoup de questions et c'est vrai qu'elle a des réponses assez déconcertantes. C'est quelqu'un qui fuit beaucoup. Vous avez sans doute vu d'autres interviews.
Oui, mais vous avez la chance d'être face à elle, il faut la reposer.
On lui pose la question plusieurs fois et elle répond toujours à la même chose quand on lui explique. Oui, même nous, quand on se balade avec notre matériel et des dizaines de kilos de caméras, on a besoin de circuler en voiture dans Paris. Elle part toujours sur le fait que c'est une position, une question conservatrice. Et elle est comme ça, Anne Hidalgo, elle arrive à vous répondre et à vous endormir un petit peu. On a laissé des relances, on a laissé parfois les questions, on lui pose toutes les questions. Julien Daguerre fait bien le taf, mais c'est vrai qu'elle elle est dans des réponses parfois un peu langue de bois qui endorment les gens. Et c'est pas facile, effectivement, d'arriver à contrecarrer ces éléments de langage et de communication.
Il y a une partie interview dans Complément d'enquête. Elle est menée par vous, Tristan Walex. On n'en a pas encore parlé, ça tombe bien, parce qu'il y a deux parties à cet entretien. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Tristan Walex, le nouveau présentateur et maître d'œuvre de Complément d'enquête, l'émission iconique de France Télévisions, émission de reportage. Reportage ce soir consacré à 23h à Anne Hidalgo. J'ai vu seulement le reportage dans ce qui m'a été donné. Je n'ai pas encore vu votre interview qui va suivre sur les fameux fauteuils rouges. Qui allez-vous interroger, Anne Hidalgo ?
Alors non, ce ne sera pas Anne Hidalgo parce que justement, elle a beaucoup la parole dans le sujet. Vous l'avez remarqué, en plus, elle est difficile à interviewer. Elle a beaucoup d'éléments de langage. On s'est dit qu'elle avait beaucoup la parole, suffisamment la parole. Et donc, on a cherché des regards un petit peu plus critiques sur sa gestion, sur sa personnalité, sur son histoire, y compris chez ses proches. Et donc, on a interviewé Julien Drey, qui est le baron noir du PS, qui connaît toutes les arcanes, qui a fait plusieurs campagnes présidentielles. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il est extrêmement critique sur sa gestion, sur sa candidature. Je vais même faire une confidence, il a voulu venir à cette interview qu'on faisait sur les quais de Seine et il ne comprenait pas qu'il ne pas pouvoir se garer sur les quais de Seine avec sa voiture. Et donc voilà, il est critique sur beaucoup d'aspects de la gestion d'Anne Hidalgo et je pense que c'est une interview qui va faire du bruit.
Baron Noir, le mot est choisi à dessein puisqu'on dit que c'est lui qui a inspiré le personnage de la série de Canal+,
oui,
Baron Noir.
Et il le confirme, je lui ai posé la question, effectivement, et il dit effectivement qu'il a inspiré le personnage de Cadmerade.
En arrivant à Complément d'enquête, l'émission a subi un petit lifting. Il y a toujours les fauteuils rouges, mais vous avez changé c'est plus les mêmes qu'avant en cuir. Pourquoi cette modification à la marge, on va dire cosmétique?
Alors pour le coup, ça avait été changé déjà l'année dernière avec le changement de réalisateur. Ce qui change, c'est pour le coup, plus que ces histoires de fauteuils, c'est qu'on va essayer de faire quasi systématiquement des longs reportages de 52 minutes, des reportages d'investigation, et ensuite un seul entretien, un entretien unique, avec comme invité, on va essayer de faire moins de commentateurs et plus d'acteurs. On est parti du constat qu'il y avait aujourd'hui beaucoup de spécialistes de tout et de rien sur les plateaux de chaînes de télé, de chaînes Tout Info. Et donc voilà, on se dit, on va essayer de faire des gens qui ont les mains dans le cambouis, des acteurs et des gens qu'on n'attendrait pas forcément en interview.
Pardon de vous dire ça, je rebondis, mais en même temps, en ce moment, Julien Drey, si je me trompe, il n'est pas élu, mais il est plutôt commentateur qu'acteur.
Oui, justement, mais on ne l'interviewe pas sur n'importe quoi. Là, on l'interviewe pour son rôle OPS sur ce qui se passe, sur la désignation d'Anne Hidalgo, dont il explique qu'elle aurait mérité de passer par une primaire, et on lui demande pas son avis sur le Covid ou sur autre chose, comme ça peut être le cas sur d'autres chaînes.
Pourquoi un long reportage de 52 minutes? C'est quoi l'idée? C'était pour vous différencier des deux autres magazines emblématiques de France Télévisions et de France 2, Cache Investigation et Envoyé Spécial. Pourquoi ce choix du 52 unique?
Alors, pour le coup, parce que c'est un format qui se prête bien à l'investigation. Laurent Guimier, Elsa Margou, mes directeurs de l'info et des magazines, estimaient qu'il y avait trop de similitudes entre les deux magazines du jeudi soir, Envoyé Spécial Complément d'Enquête, c'était vrai. Et donc Envoyé Spécial cette année va être beaucoup plus réactif, beaucoup plus porté sur l'actu, sur le news.
Pour qui n'a pas vu Envoyé Spécial, il y a plusieurs thèmes.
Voilà,
parfois
ça.
Il peut y avoir trois sujets ou deux sujets, un sujet léger et un sujet plus épais,
voilà,
ou l'inverse.
Ça. Donc beaucoup plus de grands reportages, beaucoup plus d'actu et de réactivité pour Envoyé Spécial et Complément d'Enquête, des sujets qui sont quand même ancrés dans l'actualité, là on le voit typiquement avec Anne Hidalgo, mais des sujets d'investigation fouillés pour vraiment différencier les deux marques.
Jeudi dernier, il y avait une enquête sur les pénuries de médicaments dans laquelle vous révélez que parfois certains laboratoires organisent eux-mêmes la pénurie pour faire monter les prix, information édifiante. Reportage de 52 minutes, suivi d'une interview d'une vingtaine de minutes d'un seul intervenant, en l'occurrence une intervenante, la ministre Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, donc de l'industrie pharmaceutique. Elle vous répond avec une grande franchise à vos questions. Parfois, elle ne répond pas, elle botte en touche en invoquant le fait qu'elle est ministre de la Santé, ce qui est l'évidence même. Bonne question, pourquoi n'avez-vous pas interrogé le ministre de la Santé? Vous n'avez pas voulu ou c'est lui qui n'a pas voulu?
Alors, c'est lui qui n'a pas voulu, on le dit dans le reportage. Hein, c'est Julie Lotz qui a signé cette enquête édifiante, hein, qui est toujours disponible en replay sur France.tv. Elle l'a sollicité pendant un an et même nous, on le voulait dans les fauteuils rouges, contrairement à Hidalgo. On l'a sollicité dès le mois de juin, pendant trois mois, on lui a proposé de venir et vraisemblablement, il a d'autres priorités, mais c'est vrai qu'il est le grand responsable. On voudrait
Voilà. Vous retrouvez avec Agnès Pannier-Runacher au milieu de la cour de son ministère, à Bercy, au milieu de nulle part, dans un décor complètement désert. Je suis obligé de raconter le décor, sinon on ne comprend pas l'image. Quand soudain, un trucage vidéo apparaît au milieu de nulle part, et donc chez nous, qui regardons la télévision, au milieu de l'image, on vous écoute.
Pour bien se rendre compte vraiment de l'ampleur de ce problème, je vous propose de regarder cette courbe. On se rend compte qu'en 2010, on était à moins de 100 médicaments qui étaient en rupture ou en pénurie. C'est passé ensuite à environ 400 en 2014, et aujourd'hui, on est à 2446 en 2020. C'est vraiment considérable.
Alors là, c'est un trucage que vous avez rajouté au montage, mais ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'elle est sur son fauteuil, il n'y a rien, évidemment, pour elle, et elle s'approche comme si elle regardait un tableau qui n'existe pas, et je me dis, il joue vraiment le jeu quand même, vos interviewés.
Alors non, elle le voit justement, c'est un dispositif qui a été mis en place par notre super réalisateur Anthony Forestier. Il y a quand même un écran qui est ensuite rajouté en post-production, au montage, mais elle regarde vraiment une courbe, et pour le coup, c'est aussi une des innovations de cette année. Moi je suis un journaliste de terrain, d'enquêteur, d'investigation, et c'est vrai que je travaille beaucoup sur des données, sur des chiffres, sur des documents, et le but, moi ce que je voulais, c'est que cette interview soit pas simplement une discussion, mais pouvoir montrer des choses, pouvoir montrer soit des interviews, soit des documents, soit en l'occurrence là une courbe. Et quand Madame Pannier-Runacher s'approche et regarde un écran, elle ne fait pas semblant, elle regarde vraiment un écran.
Et je vais finir d'un mot à la fin de l'émission, un service qu'à ma connaissance aucune autre émission ne propose, mais je peux me tromper, écoutez.
Et si ça vous intéresse, sachez que nos équipes de data journalistes ont mis en place un formulaire de recherche qui permet de savoir quel traitement et si vos médicaments sont concernés par des pénuries ou des ruptures de stock. C'est en ligne dès ce soir sur le site franceinfo.fr.
Voilà, ce genre de service qui est absolument exemplaire, bravo.
Merci, non, et pour le coup c'est ce qu'on essaye de développer, on essaye de bien travailler
justement,
en synergie
nous reste
avec
quelques
France
secondes,
Info.
Et dans l'équipe du reportage sur les médicaments, Hugo Plagnard, Séverine Lebrun, Clément Castex. Castex est le fils du Premier ministre, le neveu?
Alors non, absolument pas. Beaucoup de gens le croient, mais non, absolument aucun lien.
Voilà, débuguons la fake news. Merci beaucoup Tristan Walex. Je rappelle, Complément d'Enquête sur France 2 ce soir à 23h, il est consacré à Anne Hidalgo, et je viens de l'apprendre avec une interview ensuite de Julien Drey.
Culture Média continue. Après le rappel des titres de 10h, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité, j'ai vu passer là, Pierre Arditi pour une pièce de théâtre au titre éloquent, il fallait pas le dire, mais il va tout nous dire. Et puis dans les indispensables, on va fêter les 30 ans du groupe Metallica. Et puis on va partir au Mucem à Marseille, au cœur de l'exposition Jeff Koons. A tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.